Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur, aujourd'hui, fait l'éloge de son cousin Jean-Baptiste. Il est plus que tous les autres, il est même plus qu'un prophète, il est celui qui était annoncé comme préparant la voie du Seigneur. Aussi, notre Seigneur veut ici donner aux gens à réfléchir sur leur conduite. Qu'êtes-vous venu voir dans le désert? Qui êtes-vous venu voir dans le désert? Aussi, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce désert? Puisque si on vient, c'est pour écouter un certain Jean-Baptiste. Et si ce Jean-Baptiste est un prophète, et même plus qu'un prophète, alors cela doit déterminer une certaine attitude de votre part. Quelle est cette attitude? Notre Seigneur ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. Il faut écouter le prophète, et celui qui est plus qu'un prophète, il faut l'écouter davantage et mettre en pratique ce qu'il dit. Mettre en pratique et croire à ce qu'il est en train d'annoncer. Or, notre Seigneur vient de dire au messager de Jean qu'il était bien le Messie. Comment l'affirme-t-il? Non pas de manière directe, parce qu'il faut que ce message progressivement s'installe, j'allais dire, dans les esprits, avec la foi. Notre Seigneur accomplit ce qui était annoncé en Isaïe, spécialement le fait qu'il fait des miracles et que la bonne nouvelle est donnée aux pauvres. Aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui attendent avec grande espérance la venue du Seigneur. Nous aussi, mes bien chers amis, qu'est-ce que nous sommes venus faire au désert? Ou de manière peut-être moins imagée, qu'est-ce que nous faisons en temps d'avant? Est-ce que pour nous, c'est déjà un désert? Est-ce que pour nous, c'est déjà quitter un peu la grande ville, avec tout ce qui est contenu de mauvais, implicitement? Qu'est-ce que nous sommes venus faire au désert? Qui sommes-nous venus entendre, écouter? Si notre avant est véritablement un désert, cela doit provoquer chez nous une certaine attitude. Et quelle est justement cette attitude? Nous voulons entendre, nous aussi, la parole du prophète, la parole de Saint Jean-Baptiste, celui qui est venu préparer les voies du Seigneur. Or, où est-ce le lieu de la préparation des voies du Seigneur, sinon le cœur de l'homme? C'est ici qu'il faut préparer les voies du Seigneur. La mission du temps liturgique de l'Avent, c'est cela. Préparer dans le cœur des hommes la venue de notre Seigneur, venue dans la chair, certes, dont nous commémorons cet événement extraordinaire, mais aussi venue par la grâce, comme je le disais dimanche dernier, et venue ultime à la fin des temps. Préparation parce que ce n'est pas seulement une attente passive. C'est une attente qui relève d'une certaine activité. Il faut en effet une préparation spirituelle intense afin que notre Seigneur trouve la place libre lorsqu'il viendra le jour de Noël. Comment faire pour développer cette préparation spirituelle? Eh bien, il y a deux moments, j'allais dire, mais qui se compénètrent l'un l'autre, qui s'incluent l'un l'autre, le désir et en même temps l'espérance. Il nous faut partir forcément du désir. Si nous ne désirons pas la venue de notre Seigneur, j'allais dire, notre Seigneur ne viendra pas en nous. Regardez comment les magazines qui désormais inondent nos boîtes aux lettres en cette période préparatoire à Noël fonctionnent sur le désir. On vous met toutes sortes de produits alléchants, plus ou moins, dans cette catalogue, et alors ça suscite une interrogation, voire cela suscite véritablement un appétit, plus ou moins spirituel, plus ou moins matériel, et alors, à force de contempler ces choses, eh bien, un véritable désir naît en nous. Eh bien, du point de vue spirituel, cela fonctionne exactement de la même manière. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en nous, saint Thomas d'Aquin, et avant lui, bien avant lui, Aristote le disait, il y a en nous une passion qui n'est pas seulement la joie, la tristesse, l'amour, le désespoir. Il y en a une qui s'appelle le désir. C'est quelque chose de constitutif à l'être humain, un ressort qui peut être aussi bien utilisé dans les affaires humaines que dans les affaires spirituelles. Aussi, nous devons procéder de la même manière, à savoir voir devant nous tous les biens spirituels que le Seigneur veut nous apporter. Alors plutôt que de contempler ces magazines stupides qui nous apportent toutes sortes de bonheurs qui ne sont pas en fait le bonheur, je vous invite particulièrement en cette période de l'Avent à prendre l'Évangile, à prendre un texte spirituel, ou à prendre le petit livret qu'on a vendu la semaine dernière, mais qui est encore disponible, pour méditer sur les biens spirituels. Si nous ne suscitons pas en nous un bien spirituel, l'attrait des biens spirituels, nous n'allons pas les désirer, et donc nous n'allons pas nous préparer à les recevoir, puisqu'il ne s'agit évidemment pas pour nous de les acquérir, puisque ce sont des dons de Dieu, à savoir des choses qui viennent d'en haut. Donc essayons, mes bien chers amis, de travailler sur le désir des biens d'en haut, désir des biens spirituels, en faisant, en méditant la Sainte Écriture, en lisant les textes spirituels. Et alors, on décolle un petit peu, on s'élève par rapport à la terre, ce n'est pas seulement le corps qui va parler, ce n'est pas seulement les biens de ce monde, mais cela va être véritablement ce que le Seigneur a préparé pour nous. Notre Seigneur lui-même a fonctionné, j'allais dire, avec ce grand désir. Lorsque, avant de commencer le repas pascal, que dit-il à ses apôtres ? J'ai désiré d'un grand désir. Cela est une répétition, mais c'est parce qu'en hébreu, cela fonctionne comme cela. Mais j'ai désiré d'un grand désir. Que cette phrase est belle. Notre Seigneur a vraiment désiré cela. Ce moment d'intimité avec ses apôtres où il va pouvoir se donner. Eh bien, si notre Seigneur a désiré d'un grand désir aussi venir sur la terre, nous devons faire en sorte que de notre côté, nous désirions aussi d'un grand désir qu'il vienne dans notre cœur. Mais cela paraît bien haut, et on peut se dire, est-ce que vraiment tous ces biens, qui semblent très hauts et un peu inaccessibles, sont bien à notre portée ? Alors c'est là qu'intervient l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance, si ce n'est cet autre mouvement, qui d'ailleurs est une sorte de surélévation surnaturelle d'une autre passion qui est l'espoir, et bien cette espérance qui est là nous fait fermement adhérer, j'allais dire, à Dieu qui a promis les biens spirituels que nous désirons et qu'il nous a annoncés. Nous voulons véritablement avoir confiance en Dieu. Oui, mon Dieu, ce que nous désirons actuellement et que nous voulons désirer de plus en plus, vous allez nous le donner, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Dieu a déjà été fidèle à ses promesses. Nous le voyons dans toute l'histoire du salut. Dieu était fidèle dans ses promesses aussi pour nous. Est-ce que le bon Dieu nous a déjà donné quelque chose ? Est-ce que le bon Dieu nous a déjà sauvés de situations embarrassantes ? Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés une seule fois ? Jamais. Le Seigneur n'abandonne pas les siens. Alors, notre espérance, elle doit être ferme. Seigneur, vous me donnerez effectivement les biens que vous avez promis. Et si nous savons jouer sur ces deux moments de désir et d'espérance, alors véritablement, notre avant sera un bon avant. Et nous ferons eh bien, ce que saint Paul a dit à la fin de son épître, belle épître aux Romains. Cette espérance va nous combler de joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par la vertu de l'Esprit Saint, vous abondiez en espérance. Effectivement, nous avons besoin de cultiver cette vertu théologale, parce que c'est elle qui nous permet spécialement de continuer d'entretenir le désir, de continuer d'avoir la force de regarder vers le haut tous les biens que le Seigneur veut nous donner. Et nous prendrons tout spécialement comme modèle cette semaine la très sainte Vierge de Marie, puisqu'elle est celle qui a espéré au point le plus haut la venue du Sauveur. Elle condense en elle toute l'attente d'Israël. Elle est donc celle qui a désiré le Sauveur, désiré le Messie, à un tel point d'ailleurs qu'elle l'a demandé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle s'appuyait sur cette espérance. Elle s'appuyait sur la parole de Dieu lui-même, promesse d'envoyer un Sauveur, promesse de faire naître dans la tige de Jessé un Sauveur qui sera là et qui rachètera le monde entier. Avec son espérance immense, avec son désir intense, elle a même obtenu la venue pour elle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors essayons pour nous de développer cela afin de pouvoir recevoir comme elle notre Seigneur Jésus-Christ en notre esprit, en notre âme, le jour de Noël, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.